Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Aujourd'hui, la chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Yves Daho, qu'est-ce qui se passe avec M. Fitzgibbon?
Écoute, je te rappelle, le premier ministre Legault avait dit que les Québécois étaient chanceux d'avoir Fitzgibbon comme ministre de l'économie. Ben, je pense qu'il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Parce que, écoute, la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, qui remet à tous les années son rapport annuel de vérification sur tous les ministères, puis là, évidemment, elle a pointé le ministère de l'économie de Pierre Fitzgibbon et elle a découvert qu'il y avait 68 millions de prêts qui avaient été octroyés à 10 entreprises qui ne répondaient pas aux critères de sélection du programme et que le ministre, avec son pouvoir discrétionnaire, était intervenu dans le cadre de ces prêts-là pour les donner quand même. Et je te donne quelques exemples de critères qui n'ont pas été respectés. Écoute, 6 entreprises qui éprouvaient des difficultés financières avant la pandémie, parce qu'on fait référence à un programme qui s'appelle le PAC. Là. C'est un programme qui a été mis en place pour aider les gens pendant la pandémie. Alors déjà, il y avait 6 entreprises qui ont eu des prêts qui avaient des difficultés financières avant la pandémie. Certains avaient des demandes dont les investissements n'étaient pas liés du tout à la pandémie. Certaines compagnies n'avaient pas encore démontré une rentabilité parce qu'il fallait qu'il y ait une centaine de rentabilité pour obtenir de l'aide. Puis l'un des prêts a été utilisé pour un projet de construction puis pour rembourser une dette. Et ça, c'est des entreprises dans lesquelles Fitzgibbon a autorisé de faire les prêts malgré le fait qu'ils ne fitaient pas dans les critères.
Et bon, c'est ça, les critères, Yves, étaient très clairs. Un des critères, là, qui était un critère important, c'est qu'avant la pandémie, ton entreprise devait faire des profits, devait être rentable, parce qu'on voulait s'assurer, justement, de pas mettre de l'argent dans un canard boiteux qui dit, moi, je suis pas rentable à cause de la pandémie. Attends une minute, on va remonter. Non, c'est pas à cause de la pandémie. Avant la pandémie, t'étais pas rentable, on ne donne pas une scène. C'était clair. Pourtant, lui, il a usé de son pouvoir discrétionnaire pour donner de l'argent à ces entreprises-là. Est-ce qu'il était lié à ces entreprises-là?
Bien, là, actuellement, là, il assure qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts. Bon, on verra ça à partir du moment où ils nous dévoileront la liste. Parce que là, ils refusent de nous donner la liste des 10 entreprises en question. Donc, tu sais, ça revient toujours au même principe. On parle de reddition de comptes. On dit qu'on n'a pas de conflit d'intérêts, tout ça, mais ils refusent de nous dévoiler la liste des 10 entreprises. C'est comme quelque chose qui est bizarre dans cette approche-là. Puis là, je te rappellerai quand même que Fitzgibbon a dit avoir été consulté sur 25 dossiers dans le cadre de ce programme-là, pour lequel 10 il a autorisé. Mais là, est-ce qu'il y a eu d'autres dossiers sur lesquels il était intervenu puis qui a autorisé? Ça va être à vérifier. En tout cas, hier, la vérificatrice a dit qu'elle ne voyait pas de problème de favoritisme. Fitzgibbon s'est défendu en disant tout simplement que nulle part il avait investi dans ces compagnies-là, qu'il n'y avait pas des liens de proximité. Donc, on verra par la suite lorsqu'ils nous dévoileront la
OK, bon, OK. Peut-être qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, effectivement, mais reste qu'il a quand même donné de l'argent à des entreprises qui ne respectaient pas les critères. Ça, c'est bizarre.
En fait, il l'a dit déjà, Fitzgibbon, il y a beaucoup de contacts dans le milieu des affaires, donc il est toujours un téléphone proche. Là. Donc, écoute, on verra. Là, lorsqu'ils dévoileront la liste, on pourra voir concrètement là, c'est quoi les liens qu'il a lui-même personnellement ou de manière indirecte avec Investissement Québec. Mais pour le moment, tant qu'on ne voit pas la liste, ça va être difficile.
Il faut le rappeler là, hein, qu'il avait déjà été tapé sur les doigts à 3 reprises par le comité à l'éthique. Là, c'est la protectrice du citoyen, c'est ça qu'il a...
Oui, c'est le vérificateur général,
c'est ça. Donc,
c'est quand même un organisme sérieux. Là, c'est des gens qui sont très sérieux là, dans leur démarche. Là.
Écoute, on verra la suite de ça. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des fuites massives de données personnelles par l'État québécois?
Hey Richard, encore le rapport de la vérificatrice là, met un point assez important. Là. Donc, des organismes gouvernementaux sont toujours susceptibles de subir des fuites massives de données comme Desjardins, parce que les fonctionnaires utilisent encore du matériel à risque, dont des clés USB. Écoute, on est encore à l'âge de pierre, écoute. Il y a encore des gens qui utilisent justement des clés USB. Il y a encore l'utilisation de logiciels de matériel informatique visuel. Il y a des problèmes de sécurité. Puis il y a certains ministères organismes qui utilisent des renseignements personnels et confidentiels à des moments inopportuns. Écoute, c'est un peu inquiétant. Et hier, le ministre qui est responsable de la transformation numérique, Éric Kerr, il disait, la situation a fait peur quand même. Et puis on est conscient des lacunes. J'adhère totalement au conseil de la vérificatrice générale, mais je vous dirais que c'est peut-être plus large que les trois organismes qui ont été vérifiés. Ça veut dire qu'elle a vérifié trois organismes, elle a dit qu'il y a des gros problèmes. Lui, il dit que les problèmes sont beaucoup plus larges que ça.
Ah oui.
C'est inquiétant.
Oui, ça c'est inquiétant. Écoute, Yves, je suis athée. Personnellement, je suis athée, mais quand je goûte au sirop d'érable, je doute. Je me dis peut-être que Dieu existe, effectivement. Y a-tu de quoi meilleur que le sirop d'érable au monde? Mais là, la réserve mondiale de sirop d'érable est coupée de moitié.
Hey, écoute, je sais pas si tu savais ça, Richard, mais le Québec possède la seule réserve mondiale de sirop d'érable. Écoute, on est comme l'OPEC du sirop d'érable. Tu comprends? Dans le fond, nous, on n'a pas des chics arabes, on a des chics érables.
Elle est bonne.
Écoute, c'est fascinant. Écoute, je savais pas, le principal entrepôt, il est situé à Loretteville, dans le centre du Québec. Écoute, ça peut contenir jusqu'à 94 000 barils de sirop pasteurisé.
Hein?
Je ne sais pas si tu as vu la photo dans le journal.
Mais oui.
C'est vraiment impressionnant.
C'est gros comme 5 terrains de football. C'est une réserve de sirop d'érable.
Écoute, puis là, ce qui est intéressant, c'est que la demande est tellement élevée pour le sirop d'érable. Les exportations sont en hausse de 20 % depuis le début de l'année. Et donc là, comme... Il reste seulement 38 millions de livres de bons sirops pour la consommation culinaire. Là, le problème, c'est que la demande est tellement élevée qu'ils doivent aller puiser dans cette réserve-là.
Ah ouais.
Il contient actuellement 100 millions de livres, mais ils sont obligés d'aller en chercher la moitié pour satisfaire au marché.
Donc, la demande est élevée, c'est-tu peut-être à cause de la pandémie, puis les gens se mettent à cuisiner beaucoup plus qu'avant?
Je pense que c'est général, probablement, effectivement, t'as probablement raison. Les petits déjeuners sont de plus en plus en hausse partout, les brunchs, puis probablement qu'évidemment, le sirop, c'est tellement bon là, que les gens en veulent. Et là, même les producteurs eux-mêmes, ils doivent augmenter le nombre d'entailles pour la prochaine production. Là. Donc, ils vont augmenter, effectivement, pour l'année prochaine, leurs entailles de plusieurs millions. Parce qu'ils ne réussissent pas actuellement, juste avec la production actuelle, là, ils ne réussissent pas à satisfaire le marché. Donc, quand même, bonne nouvelle pour notre or blond ou notre or sucré.
Ben oui, on n'en manquera pas. Mais en tout cas, et puis honte aux gens qui mangent du sirop de poteau. Pas mal. Quand t'as du bon sirop d'érable à côté. Du sirop d'érable, c'est bon, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, tu te fus, tu mets du sirop d'érable dessus, puis ça se mange.
Même sur ta crème glacée.
Ah, moi, je mets du sirop d'érable sur mon sirop d'érable. Merci Yves Daou. On se parle demain. Salut.
Au revoir.